Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après le carburant, la France va-t-elle manquer d'électricité? La CGT Énergie veut désormais bloquer les centrales nucléaires. Nous ferons le point avec Annabelle Grelier.
Le conflit a tourné au bras de fer frontal entre le gouvernement et la CGT. Décryptage politique avec Stéphane Robert.
La dette de la Grèce est-elle sur le point d'être annulée? Les ministres des Finances de la zone euro semblent avoir trouvé un accord cette nuit sur ce point délicat. Nous entrerons dans le détail avec Marie Viennot.
À l'étranger, nous irons également en Allemagne où les producteurs de lait, comme en France, vivent des heures critiques.
Et la pression militaire sur les djihadistes de l'État islamique, deux offensives sont lancées en Irak et en Syrie. Après la panne sèche, les Français vont-ils devoir composer avec des pannes de courant? La CGT ne veut pas s'arrêter au blocage des raffineries et des dépôts de carburant. L'objectif, ce sont désormais les centrales nucléaires. La branche énergie annonce des actions d'ampleur, de possibles baisses de charges électriques. Annabelle Grelier, vous suivez ce conflit social pour France Culture. Bonjour.
Bonjour Amélie.
S'attaquer à la production d'électricité, c'est un coup de force qui pourrait avoir des conséquences lourdes pour la population?
Il n'y a pas de risque de panne sèche aujourd'hui en France, pas de blackout électrique non plus. Concernant le carburant, la plupart des préfectures insistent sur l'absence d'un risque de pénurie à court terme, évoquant un ralentissement plutôt qu'une rupture des approvisionnements dû au blocage des dépôts et des raffineries. Pour les centrales nucléaires, la CGT Énergie, qui a appelé à la plus grosse mobilisation jeudi, n'exclut pas en effet des baisses de charges électriques. Des coupures d'électricité ont déjà eu lieu hier dans plusieurs quartiers de Nantes et dans le plus grand centre commercial d'Europe, à Marseille. Et suivant l'ampleur de la grève, les baisses de charges seront plus ou moins importantes. Il est clair que de ce bras de fer avec le gouvernement, la CGT jette toutes ses forces dans la bataille et des perturbations sont à prévoir. Dans les transports, la SNCF est désormais dans un mouvement de grève reconductible à compter du 31 mai. À la RATP, grève illimitée à partir du 2 juin. Les carburants et l'énergie avec les centrales nucléaires maintenant qui entrent dans le mouvement. Un mouvement contre la loi du travail, mais qui fait écho aux inquiétudes depuis plusieurs mois des salariés d'EDF sur la situation du groupe, très largement endetté. Les mouvements de grève étaient passés sans doute plus inaperçus. Maintenant, les actions se coordonnent et se conjuguent, elles sont en effet plus perceptibles.
Annabelle Grelier, merci beaucoup, on le comprend, la CGT ne lâche rien, le gouvernement non plus et riposte en envoyant les forces de l'ordre. Ce matin, les CRS ont débloqué le dépôt de carburant de Douchy-les-Mines dans le Nord. Une attitude de fermeté saluée par le député de l'Essonne, Malek Bouti, un proche de Manuel Valls.
Moi je crois que dans un bras de fer, chacun doit assumer jusqu'au bout ce qu'il fait. Je pense que dans 3 jours, quand il y aura encore de l'essence, il y a des gars qui vont se dire « Merde, j'ai fait 3 fois le plein pour rien ». Voilà. C'est ça qui va se passer, parce que la vérité, c'est qu'il y aura assez d'essence tout le temps. Pour l'instant, toute la stratégie de la CGT est d'essayer d'affoler le pays en annonçant une grève illimitée dans les transports, de dire qu'il n'y aura plus d'essence, donc de parler de paralysie, d'avoir menacé en tant que tel l'euro. Ils ont qu'à le faire. Je veux dire, la CGT a qu'à annoncer qu'elle va faire perdre des millions de nuitées de chambres d'hôtel, qu'elle va ruiner toute une partie de l'économie française qui attendait cet événement et sur lequel qui n'a rien à voir, etc. À un moment ou à un autre, quand quelqu'un sort un pistolet, faut lui dire on va voir si t'as les couilles d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et on va voir si la CGT, ils sont prêts, une sorte de petit golpé en France, etc. Une sorte de petit coup d'État. Mais pour qui ils roulent au bout du compte? Parce que au bout de leur comportement, je parle de politique, je parle pas de syndicalisme, au bout de leur comportement, il n'y aura pas un candidat issu de la philosophie CGT qui va gagner aux élections présidentielles, mais quelqu'un d'extrémiste, le Front National.
Voilà, la situation est claire, frontale, d'un côté la CGT, de l'autre Manuel Valls, un bras de fer où finalement chacun joue sa survie, Stéphane Robert.
À l'Élysée comme à Matignon, on est convaincu que le combat politique engagé par la CGT contre la loi travail cache en réalité un combat syndical. Que la CGT est en perte de vitesse, coincée entre d'un côté les réformateurs de la CFDT et de l'autre les syndicalistes de Sud qui lui disputent le drapeau de la radicalité et qu'elle essaie de se relégitimer en montrant qu'avec ses troupes, elle peut organiser le blocage économique du pays. Pour autant, Manuel Valls n'entend pas céder un pouce de terrain. Déjà parce qu'il ne peut pas politiquement reculer. Ce serait signer son arrêt de mort. Ce serait entériner le fait qu'il est à la tête d'un gouvernement paralysé dans l'incapacité de réformer le pays ou simplement même de prétendre essayer le réformer puisque beaucoup considèrent que la loi travail a déjà été sérieusement édulcorée. À moins d'un an de la présidentielle, l'abandon de ce projet de loi, brandi comme le dernier projet de loi d'importance, scellerait finalement l'échec du quinquennat et de l'actuelle gauche de gouvernement. Ce serait suicidaire en vue de 2017 et peut-être même pour après. Et puis le Premier ministre ne reculera pas parce qu'il estime que l'attitude radicale de la CGT n'est pas populaire dans l'opinion, qu'il n'y a pas des millions de gens prêts à descendre dans la rue contre cette loi travail et donc que d'ici quelques jours, le mouvement va se déliter. On voit donc qu'à travers ce bras de fer qui s'est engagé là entre Manuel Valls et la CGT, chacun joue sa survie politique et il est à craindre que ça se termine mal, soit pour l'un, soit pour l'autre.
Alors, s'il est hors de question de plier devant la CGT, en revanche, l'exécutif est sur le point de reculer à propos des coupes budgétaires dans la recherche. C'est une information France Culture. Face au tollé provoqué par l'annonce de la suppression de crédits pour le CNRS et le Commissariat à l'énergie atomique, l'Élysée nous a confié hier que les organismes de recherche ne seraient pas touchés et que l'opération se résoudrait par des transferts de trésorerie. François Hollande a prévu de recevoir les Nobel qui ont porté la fronde et de faire un geste en 2017. On revient sur cette information dans le billet politique de Benoît Bouscarel. Cela ressemble à une victoire pour Syriza en Grèce. En effet, ce matin, après une nuit blanche de négociations, la porte semble ouverte pour un allègement de la dette grecque. Les ministres des Finances de la zone euro ont donné il y a quelques heures leur feu vert pour débloquer de nouveaux prêts à Athènes. Cela s'accompagne, comme toujours, de réformes drastiques et douloureuses pour la population. L'autre point plus sensible des débats cette nuit, c'était donc cette suppression d'une partie du passif du pays. La dette publique est aujourd'hui un fardeau monstrueux, 180% du PIB du pays. Berlin, premier créancier de la Grèce, refusait jusque-là de renoncer à tout remboursement, mais le FMI a fait pression ces derniers jours. Pour comprendre, Marie Viennot nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors Marie, cet allègement de la dette est effectivement envisagé, mais pas encore acté.
Oui, c'est une promesse qui est faite. Le ministre des Finances français, Michel Sapin, ne parle d'ailleurs pas d'allègement de la dette grecque. Il dit traitement de la dette grecque, ce qui est différent. Allègement de dette, debt relief en anglais, eh bien le terme apparaît trois fois dans le communiqué de l'Eurogroupe. Deux fois, il est précédé de l'adjectif possible, c'est donc envisagé mais pas acté. C'est un pas en avant, une forme de reconnaissance quand même que la dette grecque n'est pas soutenable. C'est d'ailleurs félicité le FMI. Alors l'Eurogroupe accepte d'étudier à court terme la soutenabilité de la dette de la Grèce si ses besoins en financement dépassent 15% de son PIB à moyen terme et 20% à moyen terme, à plus long terme. À cette condition, on pourra donc en discuter. Alors, lissage des remboursements, réduction des taux d'intérêt, les modalités sont même consignées. On avance donc, mais cela n'est pas complètement neuf non plus. En 2012, la Grèce avait déjà obtenu ce type d'aménagement. À moyen terme, en revanche, l'Eurogroupe accepte de parler d'un possible allègement donc mi-2018. À ce moment-là, une nouvelle évaluation des finances grecques sera menée. D'autres mesures sont envisagées et décrites, mais rien de définitif ou de chiffré. Le FMI repart d'ailleurs de Bruxelles en disant qu'il va étudier tout cela et c'est son conseil qui décidera avant la fin de l'année s'il reste ou pas aux côtés des Européens.
On n'a donc pas fini avec la crise grecque, Marie.
Et non, rappelons que pour prêter à la Grèce, ses créanciers européens se sont endettés. Ils ont créé un fonds, le Fonds européen de stabilité, qui a emprunté sur les marchés financiers à un certain taux et lui aussi a des échéances à rembourser. S'il fait des pertes, ce sont ses actionnaires et donc les pays de la zone euro qui devront rembourser. Or, cela transpire par tous les pores de ce communiqué. En fait, il ne faut pas au final que cela coûte plus cher aux pays qui ont prêté à la Grèce. Alors, alléger une dette sans que personne n'y perde rien, mais il ne faut pas être grand clair pour conclure que ça n'est pas gagné.
Les explications de Marie Viennot, merci beaucoup. L'Europe également au chevet aujourd'hui d'un secteur en souffrance, les producteurs de lait. Les acteurs de la filière se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer la surproduction à l'origine des prix cassés. Si l'on s'inquiète en France, en Allemagne aussi, la situation de certains éleveurs devient alarmante. Écoutez ce reportage de notre correspondant Cyril Sauvageau.
Combien de temps encore pourra-t-il tenir ? Frank Spitzer, producteur laitier dans le Brandebourg, se pose la question en regardant dégringoler le cours du lait. La situation est devenue intenable pour son exploitation de 250 bêtes qui produit chaque jour 6500 litres de lait.
In diesem Jahr, jetzt sind wir bei 18 Cent pro Liter Milch ausgekommen. Wir brauchen mindestens 40 Cent.
En ce moment, on nous donne 18 cents le litre alors qu'il faudrait 40 cents pour s'en sortir. L'an passé, déjà, nous avons fait 300 000 euros de pertes et la prévision pour l'année en cours est plutôt autour de 400 000 euros. Nos activités annexes, comme la production de biogaz et l'agriculture, ne suffisent pas à compenser ces pertes. Et nous sommes à la limite, notre survie est en jeu. Si les choses ne s'améliorent pas très vite, nous allons devoir arrêter de produire du lait comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres dans la région.
Dans un rayon de 30 km autour d'ici, explique Franck, 10 producteurs ont mis la clé sous la porte en un an et demi. À terme, seules les plus grosses exploitations pourront tenir. les mieux armés face à la guerre des prix particulièrement féroce en Allemagne. Ralf Müller est conseiller agricole spécialiste de la filière lait.
Avec le phénomène de concentration que l'on observe dans la grande distribution, les laiteries se retrouvent sous pression. Mais ça ne peut pas durer comme ça pour les producteurs. On voit bien que les laiteries continuent malgré tout à prendre leur marge, la grande distribution aussi, en mettant davantage la pression sur les prix. Et à l'arrivée, ce sont les agriculteurs et eux seuls qui paient les pots cassés.
Les producteurs réclament d'urgence le soutien des pouvoirs publics. Le ministre de l'Agriculture a convoqué un sommet du lait lundi prochain à Berlin. Il pourrait annoncer un plan d'aide de 200 millions d'euros.
Le reportage de Cyril Sauvageau, notre correspondant en Allemagne. L'actualité internationale, c'est aussi ce matin la pression mise sur Daesh en Syrie et en Irak. Deux offensives terrestres et aériennes, d'abord à Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie. Et puis en Irak, les forces gouvernementales concentrent leurs efforts à Fallujah. C'est une ville de 300 000 habitants avant la guerre. Elle serait aujourd'hui tenue par un petit millier de djihadistes. Précision signée Eric Biegela.
Dès les premières heures de l'offensive, lundi, l'agence de presse de l'État islamique, l'agence Amaq, a diffusé sur Internet des images de la bataille de Fallujah, des images à son avantage bien entendu. On y voit quelques djihadistes faisant le coup de feu dans un environnement indéterminé qui pourrait bien être les faubourgs de Fallujah, mais c'est difficile à vérifier. Tirs de mitrailleuses lourdes en direction d'une vague ligne de front dans le lointain, tirs de mortiers lourds également, à partir d'une cour de ferme, et même tirs d'un missile anti-aérien. Il est vrai que les avions de la coalition appuient effectivement les troupes irakiennes dans cette offensive. Quelques heures plus tard, la même agence Amaq diffusait d'autres images, cette fois un peu plus convaincantes, où l'on distingue effectivement, dans le brouillard mêlé de la chaleur et des zooms de téléobjectif, quelques blindés et soldats irakiens qui progressent vers les djihadistes brandissant haut leur drapeau. L'agence Amaq annonce 22 morts et blessés chez les Irakiens dans le faubourg de Nouamiya au sud de l'agglomération à l'occasion de cette incursion, mais ne montrera finalement que le cadavre d'un seul soldat victime des combats. En face, les télévisions irakiennes produisent aussi des images de cette bataille, comme la chaîne Rudao qui a suivi une escouade irakienne justement dans le faubourg de Nouamiya. Et côté irakien aussi, bien entendu, les combattants ne parlent que de victoire, comme cet officier interviewé par Rudao.
Ce matin, on a progressé en direction de Fallujah. Nos véhicules d'infanterie ont détruit des caches, des bunkers de l'État islamique. Et nous avons tué beaucoup de djihadistes. On récupère les familles la nuit. On a rencontré certaines d'entre elles durant notre avancée.
Les familles dont parle cet officier, ce sont les civils, ceux qui sont coincés dans Fallujah. Son escouade en aurait vu passer une cinquantaine qui ont donc réussi à sortir de la ville. Mais il resterait à l'intérieur de Fallujah entre 50 et 80 000 personnes.
L'opposition au Venezuela de retour dans la rue. Elle veut continuer à faire pression pour provoquer le départ du président Nicolas Maduro et dispose de peu de temps si elle veut faire partir le dirigeant chaviste et obtenir de nouvelles élections. Elle doit organiser un référendum d'ici le 10 janvier, sinon elle ne parviendrait au mieux qu'au remplacement de Maduro par son vice-président. Des promesses, mais dans la réalité, où en sont les engagements des pays du G7 en matière de protection du climat? Le WWF a fait les comptes. Ses puissances, grandes consommatrices de charbon, continue de soutenir massivement ce secteur industriel. Cela a représenté 42 milliards d'euros d'aide publique internationale entre 2007 et 2015. Un rappel à l'ordre à la veille du sommet du G7 au Japon. Le Japon, justement, très friand de cette énergie très sale. Véronique Rebérotte.
Le Japon, d'après Fukushima, s'est résolument tourné vers le charbon, désigné comme source d'électricité majeure du pays. Résultat, déjà friand d'énergie fossile, le Japon a contribué à lui seul à subventionner à hauteur de 22 milliards de dollars des projets d'exploitation de charbon à l'étranger entre 2007 et 2015. Champion du monde, loin devant l'Allemagne qui arrive en seconde position avec 9 milliards de dollars, devant les États-Unis 5 milliards et la France 2,5 milliards. C'était avant l'accord de Paris sur le climat et les promesses renouvelé de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Depuis, certains pays comme la France ont promis d'arrêter de subventionner à l'étranger les centrales à charbon les plus sales. Un cas isolé, le WWF estime à 10 milliards de dollars les subventions à venir pour financer de futurs projets de centrales à charbon dans le monde. Fin 2015, un institut de recherche indépendant sur les énergies estimait à 2440 les centrales à charbon en construction ou en projet dans le monde. Si toutes ces centrales à charbon finissait par voir le jour, soulignaient les experts, ajoutés au parc existant, les émissions de gaz à effet de serre générées par le charbon mettraient à elles seules le monde sur une trajectoire de 3 degrés de réchauffement d'ici 2100.
Et justement, le temps de ce mercredi en France, retour d'une perturbation qui va traverser le pays des Pyrénées à la Haute-Marne. Les températures 5 à 10 degrés ce matin. Et cet après-midi, on attend 17 à Lille, 18 à Brest, 19 degrés à Bayonne, 20 degrés à Bourges, 21 à Strasbourg, à Lyon et 21 aussi à Marseille.